Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct d'une cour d'école de Rosemont, Montréal, c'est ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Pourquoi une cour d'école, je sais pas, parce que je suis allé prendre une petite marche à matin. Moi, je me casse pas le bicycle, petite marche à 8h le matin, là, tu replaces les idées un peu, ok? Comme vendredi, j'avais pas les idées claires, ok? Je filais pas, je sais pas ce que j'ai. Aujourd'hui, ben, vous pouvez m'envoyer des fleurs, ça fait 4 mois que j'ai arrêter le jeu pathologique. J'ai arrêté. C'est quand que j'ai arrêté? 1er juin, fait juillet, août, septembre, octobre. Ben oui, 4 mois, ou si vous préférez, 120 jours. Je suis pas guéri. Là. Je regarde les cotes. J'ai envie de gager. Comme hier, j'avais envie de mettre ma paye sur Erickson Lubin. Tu sais, c'est pas. Je suis pas guéri, là, les amis. Ça. J'ai encore le goût, tu sais, j'ai encore, quand il y a de la boxe, je me dis, si je gage, ça va pimenter ma soirée. Il y a comme un élément d'avoir moins de fun quand t'as pas gagé. Ça, on dirait que c'est pas réglé, mais en tout cas, pour le moment, je gage pas. Je regarde l'argent monter dans mon compte de banque et je rigole. Ben, monter, c'est encore l'inflation, hein? Donc là, c'est sûr que nous, on est un podcast de boxe, mais les 8 premières minutes me permettent de vous raconter ma vie. J'ai eu ça, c'est un cours à l'université, ça s'appelle « Comment fidéliser ta clientèle pour un podcast ». Tu peux pas rentrer dans le vif du sujet parce que les gens n'auront pas l'impression de te connaître. Pour créer une fidélité, créer des gens qui reviennent de semaine en semaine, il faut que vous, à la maison, vous ayez l'impression que je suis votre meilleur ami. Mais je le suis, là. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me payer à déjeuner, vous pouvez venir me jouer dans les cheveux, là. Je suis disponible, j'ai rien à faire. Donc, je vais vous raconter ma vie cette semaine. J'étais allé travailler hier, donc samedi. Je suis allé au cinéma. Alors, parlons cinéma. J'étais allé voir le film « Simple comme Sylvain ». C'est un beau film, ok? C'est un film québécois sur l'amour. Et en gros, c'est Magali Lépine-Blondeau qui a le chum idéal, OK? Parents multimillionnaires qui sortent le chéquier pour aider, achètent un chalet de 800-900 000, grosse maison sur le plateau. Les deux sont professeurs d'université. Mais il y a une affaire, par exemple. Son chum, là, c'est pas ce qu'on appelle un vrai homme, tu sais. Il est pas capable de changer une ampoule. Il fait juste parler de philosophie. Il découche parce qu'il trouve qu'elle réveille la nuit. J'ai-tu droit? Mon podcast, est-tu 18 ans et plus? Il fait, dans la pratique sexuelle, il connaît juste une position, puis c'est toujours la même. Une minute et demie, c'est réglé. Il n'est pas affectueux. Il dit pas des mots doux. Et là, elles, ils vont s'acheter un chalet. Puis cette fin de semaine-là, elle est obligée d'y aller seule pour rencontrer l'expert en rénovation, Sylvain, du titre « Simple comme Sylvain ». Mais Sylvain, là, c'est un vrai mâle. Imaginez, mettons, moi en chemise carottée, un vrai mâle. Il est capable de déboucher une toilette, puis il est capable d'ouvrir une Molson X avec ses dents. Puis là, mon Sylvain, il arrive d'un moment de la vie de Magali Lépine-Blondeau où elle se pose des questions, elle se remet en question avec son conjoint, qui est le professeur d'université. Et là, mon Sylvain, là, il lui fait l'amour comme un tigre dévore une carcasse de vache quand il n'a pas mangé depuis 3 jours, OK? Et là, ma Magali, là, a les yeux virés à l'envers. Elle aime ça, la simplicité, tu sais. C'est pas un grand universitaire, mais lui, il est capable de te construire un cabanon à une main. Il roule le gros Chevrolet Silverado. Il est capable de couper un arbre dans le bois. Il chasse le loup dans ses temps libres, tu sais. Un homme. Un vrai. Il boit de la bière. Il boit pas des vins distingués parce que son ami sommelier lui a dit de boire telle affaire, tu sais. Et là, elle tombe en amour avec Sylvain. Mais là, c'est le clash entre les deux mondes parce qu'elle aussi, c'est une professeure d'université. Elle le reprend sur ses erreurs de français. Elle l'invite avec ses amis. Il passe pour un beau colon. Et là, elle se rend compte qu'elle n'est jamais heureuse, la pauvre. Il y en a un qui est trop intellectuel, mais elle l'aime bien. Ça fait partie de ce qu'elle est et de l'éducation qu'elle a reçue. Mais il fait pas bien les choses dans la couchette puis c'est pas un vrai mâle. De l'autre côté, t'as le mâle, le vrai mâle. Mais des fois, elle aimerait ça, parler de philosophie pour avoir un gars qui dit pas « si j'aurais » aux deux mots. Et là, elle se rend compte qu'elle n'est jamais heureuse. Le film finit. Et son Sylvain l'a largué à station-service. Elle est dans le bois, la pluie tombe sur la tête, puis elle n'a plus rien. T'sais, Sylvain ne veut plus rien savoir d'elle. Puis son ancien chum s'est trouvé une autre universitaire. Fait que la morale de cette histoire-là, allez pas voir le film de un, parce que je vous ai conté à la fin. Puis la morale de l'histoire, c'est que dans la vie, on peut pas trouver quelqu'un qui est à 100% comme nous. Tu sais, exemple, moi, je suis en amour avec Martine Vallière-Bisson, mais pas elle. C'est ça. De un, ça, c'est un problème. Mais de deux, Martine, c'est pas 100% ce que je recherche. Tu sais, elle est comme 87% de ce que je recherche. Il y a un petit 13% que c'est pas parfait, tu sais, face à ce que moi je veux, mais je l'aime quand même et je ne cherche pas à la changer. Puis c'est ça la leçon du film. Elle aimerait ça que son intellectuel soit capable de dévisser une ampoule, puis elle aimerait ça que son dévisseur d'ampoule soit capable d'y citer du Sigmund Freud. Fait que ça marche pas. Alors, c'était ta chronique cinéma. Incroyable, hein? Les gens diront que je suis pas polyvalent. Chronique cinéma d'un bord, on va parler de boxe de l'autre. Aussi, dans mes projets de la semaine, je suis allé avec ma bonne amie, l'archiviste Mélissa Fillion. On est allé prendre des vidéos de l'ancien Dunkin' Donut. Puis ça fait comme 12 ans que le terrain est mort, 8e Rosemont. Les arbres ont poussé encore. Autour, mais on voit encore l'affiche. Là, j'ai comme filmé l'affiche. Je suis allé filmer le banc. Je prépare mon premier documentaire vidéo, mais ça va vraiment être avec les moyens du bord. Là. Filmer avec mon iPhone, moi qui fais la narration, ça va être moi de A à Z. Il n'y aura pas de perchiste. Là. Il y a juste Mélissa Fillion qui m'a aidé avec... Mais par amitié, elle ne m'a pas demandé une pièce. Il va avoir le premier documentaire. À moins que mon ami Maxime Tifo accepte de m'aider, mon premier documentaire sur le grand Antonio. Fait que ça va être incroyable. On rappelle que ce podcast est commandité par FightNight.co de mes bons amis Sébastien Forgue, il me semble. Je ne me rappelle jamais de son nom de famille parce que dans ma tête, c'est juste Sébastien. Et Benjamin Théberge, mes deux bons amis. C'est tellement ton bon ami, t'as oublié son nom de famille. Ben oui, je suis mêlé comme un cheval d'un jeu de quilles. Fightnight.co. Et maintenant, c'est les propriétaires du gym Cité en Forme, le plus grand gym de l'histoire du Québec. D'ailleurs, moi, je suis allé vérifier ça là, sur les interwebs. Ça coûte pas cher, tous les services sont là. Cité en forme, en plus, le jeu de mots est excellent. Cité comme ville, en forme. Hey, cité en forme, continue d'aller au gym. Cité pas en forme, ben abonne-toi. Tu sais, je trouve ça fort le jeu de mots. Cité en forme, fightnight.co, c'est les futurs José Lavigueur, ça. Ça sent le modèle à succès. Moi, c'est Régent Tremblay qui m'a dit ça. Il m'a dit « Trouve des gens beaucoup plus intelligents que toi. Tiens-toi avec eux. Attends qu'ils aient du succès. puis probablement qu'ils vont vouloir t'aider vu que tu étais là avant qu'il y ait du succès. Fait que moi, je me colle sur deux génies, puis j'attends. Fait que quand ils seront milliardaires, ben probablement je serai millionnaire, moi, parce qu'ils vont échapper du change ou ils vont échapper de l'argent. Moi, je vais ramasser ça. Puis là, c'est ça mon plan avec Benjamin et Sébastien. Si t'es en forme, fightnight.co, allez vous inscrire si vous voulez vous battre. La formule va recommencer bientôt. Les gars, ils n'arrêtent jamais de travailler. C'est ça que moi, je trouve ça bon avec les génies puis les entrepreneurs. Tu penses qu'ils sont en congé? Oublie ça, ils travaillent plus fort que jamais. Études de marché, planification, nouveaux commanditaires. C'est compliqué d'avoir du succès. Puis c'est juste ça qui me manque avec mon podcast. Kim Clavel va affronter Evelyne Nazarena Bermudez. C'est étrange, hein? Parce que moi, j'ai plein de questions qui m'intéressent en dehors de ce combat-là. C'est sûr, je vais vous parler du combat, là. J'ai un métier à faire. Mais numéro un, pourquoi Kim Clavel ne vend pas plus? C'est un massacre à billetterie. Je ne sais pas s'ils ont vendu 1300 billets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque athlète fait des promotions pour donner des billets. La radio donne des billets. J'ai même un ami qui m'a dit, je vais appeler voir s'ils ne me donneront pas des billets. C'est un ami, Christian Toussaint. Il dit, m'aller sonner, m'aller à Boxe Montréal, m'assied d'avoir des billets gratuits. Il dit, peut-être Caroline Vert ou Kim Clavel en a dans ses poches. Tu sais, on est tombé dans la gratuité pour essayer que ça ait l'air d'avoir du monde. Et je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les gens n'embarquent pas avec Kim? Est-ce que c'est le véhicule Yvon Michel qui est mort? Parce qu'Yvon Michel a l'air vieux, fatigué, aigri. Il n'est plus là, il ne fait plus de promos, il ne fait pas le tour des médias. Moi, j'ai le goût, là. En tout cas, je m'offre, là. Yvon, puis mettons, garde Bernard Barré et Alexandre Croft, mets tout le monde dehors. Mais non, j'ai pas le droit de dire ça, ça va me faire suspendre. Non, garde tout le monde. Après ça, engage-moi. Puis moi, je vais faire les médias à votre place. Vous êtes vieux et fatigué. Faites de la moto. Comme Yvon fait de la moto. Bernard fait de la politique. Alexandra, t'as jamais été vraiment à l'avant-scène. Puis moi, je vais devenir porte-parole. J'ai 85 000 par année. C'est ça que je demande. Okay? Je vais devenir porte-parole. Je vais aller à la radio dire que... Je vais y aller à la radio vendre le combat. Kim Clavel contre Evelyne Nazarena Bermudez, c'est la troisième fois qu'il y a un combat de championnat du monde unifié au Québec. La première fois, c'est Kaden Holt contre Timothée Bradley. Après ça, c'est Kim elle-même contre Jessica Neri Plata. Et là, c'est encore Kim. Kim marque l'histoire avec un deuxième combat unifié au Québec. Okay? Kim a fait des choses légendaires. Il n'y a pas un mot du chat dans la foule. Il faut que quelqu'un y aille à la radio pour vendre les affaires. Moi, y aller, moi. Là, elle affronte... Puis ça m'inquiète là, que Kim ne vende pas de billets. Puis la deuxième chose qui m'inquiète, c'est que Evelyne Nazarena Bermudez, c'est une Argentine. Puis il y a quelque chose de fucké avec leur consulat. Mais ça a l'air d'être compliqué en joie le vert faire rentrer des Argentins au Québec. Fait qu'elle n'est pas rentrée. Je vous avertis, là. Soyez pas surpris si vous vous levez un matin puis c'est marqué « Problème de visa pour l'adversaire de Kim Clavel. Une tuile lui tombe sur la tête. Ça se peut. Ça se peut. Pour le combat en soi, c'est l'exemple parfait d'un combat 50-50 où la championne IBF WBO, Evelyne Nazarena Bermudez, se déplace sur la route parce qu'il n'y a pas d'argent à faire chez eux pour affronter Kim Clavel. Elle est surnommée la princesse. Elle nous vient de Gobernador Galvez, Santa Fe, Argentina. Mesure 5 pieds 5, c'est la deuxième meilleure dans sa catégorie de poids. Elle va passer pro en 2016 alors qu'elle est âgée de seulement 17 ans chez elle. Et là, elle fait sa petite affaire. Elle affronte du monde tout croche. Tu sais, elle a 19 ans. Là. Attendez-vous pas à des miracles. Et lors de son premier combat important, elle va affronter Sylvia Torres. Chez eux, mais pas chez elle, au Mexique. Et ça va finir dans un combat nul où elle va envoyer Torres au tapis deux fois, mais elle va perdre un point et ça finit combat nul. Okay? Là, écoute, elle est tout jeune, là, fait qu'elle a 22 ans. Fait que là, elle sort pas, bading, badang, fait ses petites affaires et là, elle va commencé à faire des combats bon, plus importants. Et ça va l'amener en combat de... Elle va devenir championne du monde, là, m'amener dans mon histoire, là. En battant Yadidza Perez. Là, elle gagne le titre World IBF. Okay, là, elle est championne. La vie est belle. Là, elle va battre Yarinette Altuve. Une bonne boxeuse, selon mon ami Marie-Ève Albert. Et là, elle va être défaite par Yocasta Valle. Okay, dans un combat étrangement serré sur un juge, un peu serré sur l'autre, puis pas serré du tout avec Adelaide Bird, l'aveugle qui avait donné tous les rondes à Canelo contre Golovkin. Fait que Adelaide Bird fait de l'Adelaide Bird, OK? Et là, tout de suite après avoir perdu, on va lui offrir de se rebattre pour les deux mêmes titres contre Tania Henriquez. Et là, elle va faire pas mal la performance de sa vie, mais c'est serré. Donc, je vais vous dire ce qui va arriver, moi. Exactement. Kim Clavel va remporter une courte décision partagée des juges. Ça veut dire quoi? 96-94 Kim. 96-94 Valle. OK. Et 96-94 Kim. Combat victoire majoritaire. La question qu'il va falloir se poser dans les bureaux d'Yvon Michel, ils ne la poseront pas à vous autres, là, vous n'en rendrez pas compte de cette question-là. Kim a vendu 1600 billets. Okay? Ça, c'est les vrais chiffres. Pas les chiffres gonflés que les billets donnés, puis on invite le club optimiste, puis Yvon invite ses 9 neveux. Là. Le vrai, c'est 1600 billets. Là, ils vont dire comment on va faire pour rentabiliser Kim, aller chercher l'autre championne, payer Kim qui va vouloir avoir une main. Kim, elle va vouloir améliorer sa paye. Elle est rendue double championne du monde. L'adversaire va vouloir une bonne paye. Elle a deux ceintures aussi. Fait, comment qu'on fait un combat? Et Jessica Neri Plata. Comment qu'on fait la revanche entre Plata et Clavel? Alors que Plata est venu gagner ici. Elle va vouloir plus d'argent à la revanche. Kim va vouloir plus d'argent parce qu'elle a gagné. Puis Yvon, il sait qu'il est plafonné à 1600. Fait que ma théorie, c'est qu'Yvon va dire, donne-moi 6 mois. Il va aller jouer au golf. Il va faire des voyages, on le verra plus. Un ou deux casinos va arriver ici de bronzer, mettre des boxeurs de l'Ontario. Je m'attends à ce que le groupe Yvon Michel gagne ou perd. Soit sur pause pour le prochain 6 mois. Et je m'attends à ce que Kim Clavel flirte avec l'idée d'aller aux Olympiques pendant ce 6 mois de congé-là. Surtout si elle perd. Si elle gagne, avoir une grosse réflexion parce qu'il n'y aura pas tant d'argent que ça sur la table et l'argent qu'elle mérite, mais elle ne l'aura pas. Fait que gérer ça comme vous voulez, c'est pas mon problème. Et Sébastien Bouchard lui affronte Maslow McDonny. Combat charnière dans la carrière de Bouchard, qui est rendu un vieillard de 36 ans, qui a seulement 2 défaites en carrière. Frank Galarza, il y a 10 ans. Combat relativement serré, il s'en va perdre aux États-Unis. Il va perdre contre Ayaz Hussein quand son bicep explose. Là, il va faire une performance de bouette contre Ricardo Lara. Et il a mal paru son dernier combat. Le gars est sur la pente descendante. Est-ce qu'il avait besoin d'un Maslow McDonny pour se motiver? Possiblement. Je m'attends à ce que Maslow l'emporte de manière serrée. Bouchard frappe fort, met de la pression. Maslow, il boxe bien. Ça va donner un tabarouette de chaud. C'est, écoutez, pour la finale et la demi-finale, ça vaut la peine de dépenser son argent. C'est ça la vérité. Marie-Pierre Roule va affronter Cindy Reyes Espinoza. Puis l'affaire qui me tanne, Marie-Pierre Roule, écoute-moi, là, l'affaire qui me tanne avec toi, là, c'est qu'il t'est toujours avantagé. Genre, on dirait qu'il te met dans Watt tout le temps. Genre, là, t'affrontes une fille de 21 ans qui a la moitié de ton expérience. Tu reviens du championnat du monde. T'sais, t'en as affronté une fois, elle avait 18 ans. Là, 21 ans. Toi, t'es vieille, là, t'as 31 ans, si ma mémoire est bonne. Affronte donc du monde de ton âge, avec le même nombre de combats. C'est tout le temps des... On va y arranger un petit avantage, on va faire ça cute. Je suis tanné. On peut-tu avoir des combats équilibrés? Là, elle affronte Cindy Reparez Espinoza, une fille qui avait déjà pris le combat il y a longtemps. Là, c'est elle qui a le combat. Bon, là, la moitié des combats à Marie-Pierre... Elle a aussi la moitié de son âge. Mais, en revanche, elle a deux victoires sur Marisol Moreno qui a fait mal paraître Marie-Pierre Roule à Montréal. Donc, on va espérer que ce soit compétitif. C'est les débuts de Marie-Pierre à 140. Moi, Marie-Pierre, je te vois dans ma soupe. Je pense que tu peux retourner en championnat du monde et bien paraître. Je pense qu'il va y avoir des opportunités pour toi. Tu pourrais retourner en championnat du monde deux fois. Là, après ça, gagne ou perd, ça, c'est toi qui le sais, c'est pas moi. Donc, reste active, attends les championnats du monde, mais c'est les adversaires qui n'ont pas l'âge pour boire à Buffalo, là. Je sais plus, mais c'est pas moi qui fais le matchmaking. Hein. T'affrontes une fille qui n'a pas l'âge pour boire à Buffalo, c'est ça la vraie affaire. Thierry Ozias affronte Oscar Soto Quintana. Un gars de Quintana, il est tout croche, mais 5 victoires, 4 défaites. C'est encore une sous-carte de bouette qu'on nous présente. Genre, les deux combats finales valent la peine. Pour le reste, je sais pas. Moi, amenez-vous de la lecture. Genre, Thierry Ozias contre Quintana, ça me dit absolument rien. Quintana, je pense qu'il est 4 millième sur. Il est même pas classé sur BoxRec, tellement qu'il est loin. Après ça, Caroline Vert est 6e au monde. La fille a tout fait chez les amateurs. On y amène une Italienne tout croche en Jessica Belouski. Une fille de 24 ans, surnommée Bulldozer, qui n'est jamais sortie de l'Italie. Fiche combinée de ses adversaires. Une victoire, 10 défaites. Tout croche, mais... Stéphane Larouche, Daniel Bouchard, je vous vois, là, vous protégez Caroline Vert parce qu'elle recule en ligne droite, puis vous ne savez pas si elle est encore prête pour les pros. Hein. Puis là, vous gagnez du temps. L'adversaire est pourri. 6 contre 95 d'une division où il y a 140 filles actives. Pourri, je suis tanné. Puis Derek Pomerlo affronte un Polonais tout croche. Michael Schlutil. Ouais, le gars, il a les cheveux d'un chanteur de boy band. 3 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Je suis tanné. Il vient de faire une nulle à son dernier combat. Lui, il était venu contre Poulain. Il avait fait une nulle en 2023. Ses seules victoires, c'est 0-5 puis 28-34. Oh. Puis 0-5 encore. Il n'a jamais battu quelqu'un avec une victoire. Oui. Il est 0-5, puis 28-34. Tabarouette, t'es trouvé où, Vincent Morin, tes adversaires? C'est une boîte de Cracker Jack? Ouais. Pourri. À part Bouchard puis Clavel, là, le reste, c'est bien ordinaire. Okay? Je vais checker Marie-Pierre Roule. Au cas où que l'adversaire me surprendrait, mais on a déjà une affaire. Je t'en vais de perdre patience. Mais quoi que c'est, il y en a qui vont dire que c'est déjà fait. Là. virons pour une nouvelle chronique. La chronique Eye of the Tiger, scène locale, mais on change de promoteur. Eye of the Tiger Management, l'argent, ça n'a pas l'air d'être un problème. Là, ils s'en vont en pas plus loin que le 28 octobre prochain. Ils s'en vont à Dubaï avec deux de leurs boxeurs. Aslan Bek, le lion Makhmoudov, va affronter Agronz Makhitchi. Agronz Makhitchi est 72e sur BoxRec. C'est offensivement, c'est un prodige. Défensivement, il boxe aussi bien que moi, sorti du Diable Vert après 12 tequila lim. Okay, ça n'a aucun bon sens. Le gars, il n'est pas capable de prendre un coup, mais il est super bon à l'attaque. Mais il n'est pas capable de prendre un coup. Ça devrait durer entre 63 et 65 secondes avant que Makhmoudov le pince et que mon autre dorme devant lui, OK? Ça va être bien fun, bien le fun. C'est un gars qui a duré 2 minutes 40 contre Zan Kozubutski, une main gauche, il vient de se réveiller. Et après ça, il a surpris Lenroy Thomas à Dubaï, c'est pour ça qu'on le ramène, c'est que les gens de Dubaï se rappellent de la fois qu'il a surpris Lenroy Thomas sur, à Dubaï, OK. Fait que le gars est déjà rentré. Déjà rentré au pays, tout. Fait qu'on... Dans ce temps-là, tu le ramènes, c'est pas de trouble. Et il a battu personne. Là, il va affronter Agit Kabayel et il va surprendre Kabayel au deuxième. Il va y faire mal. Il a les mains lourdes quand même, Smakichi. Il va surprendre Kabayel. Kabayel va se relever puis il va le knocker. C'est un gars qui a pas de menton puis il affronte... Makhmoudov, c'est une drôle d'idée. Mais selon mon bon ami Régent Tremblay, il y a déjà un contrat de signé pour Makhmoudov et il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient. Il fallait s'assurer qu'il gagne tout en ayant un adversaire semi-crédible parce qu'il faut protéger l'investissement où il retournerait à Dubaï. Puis quand vous y pensez, si les gens de Dubaï ils veulent payer pour... nos boxeurs, OK? Ben ça permet d'économiser, vu qu'ici, on n'achète plus un tabarouette de billets. Fait que là, tu fais de l'argent là-bas, ben c'est eux qui payent les adversaires, les gens progressent, s'améliorent au classement. Alors, regardez, là, vous autres, là, les Québécois, vous chialez tout le temps, OK? Si Makhmoudov avait affronté Scott Alexander, vous auriez pleuré comme des madeleines dans une funéraille. Mais finalement, si je me rappelle, Scott Alexander a failli débattre votre Frank Sanchez hier au premier round. Le même qui aurait dû affronter Alexis Barrière, Scott Alexander. Fait que, tu sais, arrêtez, là. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Là. C'est pas plus vert chez Frank Sanchez que chez Arslanbek Makhmoudov. Okay? Joseph Parker, lui, il a une carrière de 32 victoires, 3 défaites. C'est le prochain adversaire de Simon Kane. Lui, tout va bien, gagne tous ses combats. Il va battre ben du monde, OK? Il va battre Carlos Takam. Il va battre Kali Mehan dans son pays. Il va battre Solomon Homono dans son pays. Il va battre Alexander Dimitrenko, le géant. Il va battre Andy Ruiz. Il va battre Razvan Kojanu, qui était un prospect à l'époque. Il va battre Yugi Fury, le frère de l'autre, facilement. Et là, il va se faire déclasser par Anthony Joshua au juge. Et il va perdre serré, il méritait peut-être un meilleur sort. Il va même envoyer Dillian White au tapis au 9e, mais c'est vraiment les deux chutes contre lui qui vont lui faire mal. Il va perdre contre Dillian White. Là, il revient, il rebat des anciens aspirants, il bat du monde dans son pays, il bat Chichora deux fois, et il va se faire arrêter par Joseph Joyce. Là, il repart. Jack Massé et Faiga Opelou. Et là, c'est Simon King. Il n'y a plus de contrat présentement, puis il fait des petits combats, il fait ses affaires, mais la rumeur, c'est que ce serait lui contre Makhmoudov le 23 décembre, mais là, à suivre, où il serait toujours sur les mêmes cartes, mais il y a beaucoup de pression pour qu'il affronte Makhmoudov, si j'ai bien compris. Son vrai nom, c'est Lupe Souliai Laholoyo Metialiatoa. Mais j'ai beaucoup l'impression qu'ils vont l'appeler Parker pendant le combat pour que ce soit moins compliqué. Et il affronte Simon Kane. Mais tu sais, pour Simon Kane, il a 34 ans. Il a besoin de ce genre de chance-là pour espérer devenir millionnaire avec la boxe. Donc, hey Simon, bonne chance, tu en avoir besoin, mais c'est le combat qui fait le plus de sens où tu es rendu dans ta carrière.
On n'est pas au Kenya, c'est pas un lion! Il reviendra pas, l'écureuil! C'est le même, c'est des rats avec des grandes queues!
J'adore quand la NFL a des matchs en Angleterre. Comme là, je suis assis, j'enregistre mon podcast d'un œil et de l'autre, j'enregistre mon podcast d'un œil et de l'autre, j'écoute la NFL. Il y a un match incroyable entre les Falcons d'Atlanta et les Jaguars de Jacksonville en Angleterre. Ça fait que là, tu peux rester vaché devant ta télévision de 9h30 le matin jusqu'à 11h le soir sans même bouger, OK? Puis si t'as faim, Domino a la pizza à 50% de rabais. Fait que là, pour 13,65, je me suis commandé triple fromage, triple bacon, sauce Alfredo, croûte mince. T'en manges la moitié pour dîner, l'autre moitié pour souper, 13h devant la télévision, T'as même pas besoin de prendre une douche, OK? C'est mon plan de match. Et pour avoir un swag incroyable, si jamais ça sonne à la porte, Grim MTL pour vos besoins en t-shirt, allez consulter le site grimmtl.com. Donc, incroyable. Vous voyez, en plus, je vous dis même comment vous habiller. Hier, il y avait un gala de boxe. On est rendu, et là, on a fait Groupe Yvon Michel, on a fait Eye of the Tiger, et on se dirige à pieds joints dans la carte qui avait lieu hier à Hamilton. Et c'est mon bon ami David Saint-Martin qui l'a suivi pour moi. Okay? Parce que là, moi, comme vous avez, comme j'ai déjà dit, j'ai juste une paire de yeux. Okay? Hier, j'écoutais, j'étais chez Joe Giria parce que Jonathan Giria avait commandé tous les pay-per-views hier. Fait que j'écoutais Canelo sur un, avec lui. On va en parler tantôt de Canelo, inquiétez-vous pas. Après ça, j'écoutais la lutte Collision, la AEW. Et sur l'autre poste, on a écouté un peu les Alouettes, un peu le FC Montréal, un peu le Canadien. Fait que là, à un moment donné, là, j'avais pas assez d'yeux pour surveiller la carte à Hamilton. Fait que j'ai engagé mon bon ami David Saint-Martin pour regarder ça. Et Ryan Ruzicki est allé d'un combat, une guerre de tous les moments, contre Alante Green. J'aurais dû prendre en note là, son nom, ça, j'ai l'air d'un beau tata. Alante Green pour la NABF contre Ryan Ruzicki. Et il va le passer KO au 10e round, mais il paraît que c'était une guerre de tous les moments. Combat à écouter. Ce qu'on va faire, je vais essayer de vous trouver le combat et je le déposerai sur Boxing Town Québec, ton site de boxe préféré. Vu que c'est un con. Puis Ruzicki, c'est un animal. Là. Mettez-moi ça partout. Sur la même carte, et là, j'ai encore j'aurais dû prendre des notes. Je peux pas tout le temps vous donner les affaires par cœur. La demi-finale, si ma mémoire est bonne, c'était John Michael Bianco, qui est un des préférés de Martine Vaillard-Bisson. Ben, je me rappelle, elle m'avait dit ça un moment donné. Il affrontait Samuel Moses. Il a gagné le titre vacant des 168 livres. Bianco a surveillé. Antonio Napolitano a battu Edwin Villarreal Flores et Stéphane Dronjac a battu Fernando Martinez Bello. Mais il y a eu deux gros upsets sur la carte et c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler. Caroline Redmond s'est fait battre au juge par Jennifer Williams. Puis ça fait souvent que ma bonne amie Marie-Ève Albert dit hey, « Il faudrait mettre Caroline Redmond contre Marie-Pierre Roule un jour. » Puis ça n'arrive jamais. Puis ils nous disent ouais, « peut-être un jour. » Tu sais. Mais là, c'est fini, elle a perdu. Vous voyez, c'est comme la fois que je voulais sortir avec la plus belle fille du Québec, je n'y ai pas demandé. Ben, il y a un autre qui lui a demandé à ma place, puis là, elle va se marier, puis je me ramasse à écouter NFL 13 heures par jour en bobette. Tu sais, peut-être si j'avais, si j'étais intervenu à temps, elle serait avec moi aujourd'hui. C'est de même. Si vous voulez, je vous dise. J'ai oublié d'intervenir. Elle n'est pas là. Et présentement, Jacques Daou, là, quand il a passé pro, c'était comme un moyen qui avait une belle carrière, puis ça marche pas pantoute. Il a perdu contre John Manu au juge. Là, il vient de se faire battre au juge par Lionel Castanon, puis ça marche pas pantoute. Fait que là, moi, je sais que je suis écouté par les gens d'Eye of the Tiger Management pendant qu'il n'y a plus de valeur, Jacques Daou, mais que c'est un ancien de l'équipe nationale, puis tout. Sacrez-moi, Jacques Daou, à 160 livres contre Alexandre Gaumont. Vous voyez? Là, ça va vous faire vendre des pay-per-view partout au Canada. Merci, ça me fait plaisir de vous aider. Jacques Daou contre Alexandre Gaumont, c'est réglé. Alors, c'était tes nouvelles sur la scène canadienne. Bon, hier, je peux plus faire à croire que ça existe pas. Là. Saúl Canelo Álvarez a battu Germel ou Germal Charlot, là, je suis plus sûr c'était lequel, c'est des jumeaux. Puis, je vais être bien honnête avec vous autres, là, je l'haïs Canelo, OK? Puis j'haïs les adversaires qui lui vouent un trop grand respect. Pourquoi Charlot n'a même pas essayé de gagner, OK? Ça avait l'air d'un sparring organisé Puis les gars voulaient pas trop se faire mal, puis ils voulaient collecter la bourse. Puis ça m'a mis en colère, OK? J'ai pas compris l'intérêt de ce combat-là si tu n'essayes même pas de gagner. Terence Crawford a raison. Hey, t'as même pas essayé de gagner, maudite vidange. C'est... Alors, je traduis les propos de Terence Crawford. Victoire de, je pense, 119-109. Ça m'intéresse même pas. Après ça, Charlo, qui okay, lui, s'en retourne à 154 avec tous ses titres. Il n'y a rien de trop grave. Alvarez, là, c'est assez simple. On veut le voir contre trois personnes. On veut le voir contre A, revanche contre Bivol. B, Benavidez, on remplit un stade de soccer, 250 000 personnes. C, Arthur Beterbiev. Okay. Qu'est-ce qui va finir? Comment ça va finir? Vous voulez savoir comment ça va finir? Ça va finir avec D, un quatrième combat contre Golovkin, vu qu'il est rendu à 104 ans. Ça va finir avec E, il va donner une chance, mettons, à Errol Spence, vu que c'est lui qui vient de perdre. Ou F, il va donner une revanche à John Ryder. T'sais, le gars, il veut jamais nous donner les combats qu'on veut. Puis quand on les a, il fait croire qu'il était blessé. Oh, je filais pas. Je bobivole 9 jours sur 10. Je taillis Canelo. Va manger un steak empoisonné. C'est, des fois, là, j'ai honte d'être roux à cause de toi. J'ai envie de me brunir les cheveux. C'est-tu grave, ça? Puis tu m'énerves. Puis t'es protégé par Mauricio Suleiman parce que t'es Mexicain. Tu bloques les ceintures pour Mbili puis Basignan. Ils peuvent pas avoir leur opportunité. T'es en train de scraper Benavidez, qui est un des plus beaux boxeurs parce qu'il est pas capable de sortir de l'ombre puis d'avoir son combat. Je t'haïs. J'en peux plus. Pour vrai, je fais du sang de punaise, comme dirait ma grand-mère. Yordeny Uga a été battu par Mauricio Barros. Uga, c'est un bon boxeur cubain, mais visiblement, ça passe pas quand il affronte l'élite. C'est un bon technicien, mais il finit par se faire mal. Il finit par être inquiet par la puissance de son adversaire. Puis ça marche pas. Mario Barros devient WBC intérimaire. On va le revoir en championnat du monde. Et là, dans le scandale de la journée d'hier, le jeune prospect de 22 ans, Jesus Alejandro Ramos Jr., a été battu. Mais serré comme ça, pas de bon sens. Le combat, le combat, Ramos avait l'air gagnant. Les trois juges donnent Lubin. Il y a même un juge qui donne une femme, Patricia Morse, qui donne... Ben, c'est pas grave, là. Je l'ai dit de manière pas correcte. Elle gagne 117-111. Okay. Elle a 117-111. Très dur à comprendre. Ramos travaillait au corps. Très mauvais défensivement, Ramos. Assez doué offensivement, mais c'est vrai qu'il prend trop de coups. Ramos a tout d'un éventuel champion du monde. Jusque-là, ça n'a pas passé contre Lubin. Il doit apprendre à boxer défensivement, mais offensivement, c'est spectaculaire. Elijah Garcia a arrêté José Armando Rezendiz. Frank Sanchez a survécu au premier round contre Scott Alexander pour gagner au quatrième. Alexander Vosdick a gagné au deuxième contre Isaac Rodriguez. Et Gabriel Golaz Valenzuela, qui est détesté par Ivulis, l'emporte au sixième round. Terrell Gaucha a battu qui est André Leatherwood aussi. Donc, on avait beaucoup de belles boxes. Le prodige de Floyd Mayweather, Kurmel Motton, a gagné au premier round. Donc, ça fait le tour de ta chronique, les combats qui ont eu lieu hier. Un résumé. Ah oui, il y a Murat Gassiev qui a gagné aussi, qui a perdu contre Otto Wallin. Le combat avait lieu en Turquie. On a essayé de monter Gassiev, sauf qu'on avait oublié à quel point Wallin est bon. Wallin qui avait fendu l'œil complètement de Tyson Fury. Il s'est boxé, cette tabarouette-là. Puis là, ben, il était trop fort pour Murat Gassiev, qui nous vient des 200 livres et qu'on essayait de nous rentrer dans la gorge contre, comme un méga prospect chez les lourds. Là. Ça va être une méga défaite, plutôt. Les combats de la semaine prochaine. Hey, tu sais, quand tu décides que tu vas tout faire, là, Québec, Canada, le monde, Canelo, la semaine prochaine, les nouvelles, ça fait un méchant long podcast. Je pourrais quasiment vous charger un 100 pour faire ça. Sarah Mahfoud va affronter Marcella Eliana Acuna. C'est juste pour vous dire de télécharger le podcast 120 secondes de Marie-Ève Albert. La semaine prochaine, on a Ogledis Osley Oglias qui va affronter Arthur Reis en Allemagne. Les Allemands, des fois, oh ouais, ils se payent un Cubain. Oh ouais, oh ouais, viens vivre ici, la vie est belle, on va te protéger. Tu boxeras plus jamais de ta vie en Amérique du Nord, tu vas te battre. En Allemagne, le restant de tes jours, le samedi, le 7 octobre prochain, ben nous autres, on va s'occuper de Kim Clavel surtout, là, mais mettons que tu veux aller aux autres postes, il n'y a pas grand-chose. Il y a Lee Wood qui va affronter Josh Warrington en après-midi. Ça, je l'ai mis sur mon agenda, c'est parce que ça me fait patienter en attendant Kim Clavel. Et la même journée, il y a Terry Harper qui va affronter Cecilia Brackhouse. Donc ça, c'est ceux qui veulent venir chez nous, je vous invite. Là. On s'installe une couple de chaises de camping. On écoute le gala entre Lee Wood et Josh Warrington et Terry Harper contre Cecilia Brackhouse. Et ça, ça fait passer le temps en attendant le gala de Kim Clavel. Donc vous êtes tous invités. C'est ben, mon adresse, ce sera en privé. Là. Quand même filtrer un peu de quoi vous avez l'air. T'sais. Mettons, tu veux venir chez nous et t'as l'air d'un criminel, mais je ne vais pas te laisser rentrer. Gilberto Ramirez va affronter Joe Smith le même soir que Kim Clavel. Et c'est intéressant parce que Alan Tice Fox, qu'on a vu contre Eric Bazignan, lui, va affronter Bektemir Melikouziev, qui est un monstre, un danger public. On va pouvoir faire nos comparaisons entre Melikouziev et Eric Bazignan. Moi, c'est toujours intéressant quand je suis capable d'aller chercher des informations parce qu'on n'a pas les combats qu'on veut, donc on fait nos calculs comme ça. Tu veux pas me le donner, le combat de Melikouziev, mettons, contre quelqu'un de connu au Québec? Ben, je vais prendre mes comparaisons de même. T'sais. S'il fait mieux que l'autre, ben, je vais le mettre devant dans ma liste parce que j'ai une feuille mobile avec les noms. Là. Je vais prendre du liquid paper, je vais remonter de gauche, je vais descendre l'autre. T'sais, c'est... Fais ce qu'on peut que ce qu'on a. Donc, c'était ton podcast préféré. Ben, j'ai pas vraiment fini. Là. Voulez-vous que je fasse les nouvelles internationales? Et j'entends vos oui à la maison, juste qu'on va les concentrer en 3 minutes. Les nouvelles internationales avec ton bon ami Laurent Poulain. La semaine prochaine, on va se concentrer sur le gala de Mary Spencer. Là. Bon, le protégé de Floyd Mayweather, Kurmel Motton, a gagné ses débuts pro et Floyd y avait mis une médaille dans le cou. C'était vraiment beau. Canelo demeure le roi des 168, je l'ai. Jay Opetai a détruit son adversaire. On prépare la revanche contre Meris Bredis. Germel dit « J'aurais pu faire plus », mais c'était dans le ring, sans dessin. Le lendemain, moi aussi le lendemain, j'aurais pu faire plus. À un moment donné, j'ai eu 34 dans mon examen. Mon père me dit « Pas terrible ta note ». J'ai dit « Oui, j'aurais pu faire plus ». Ben, il m'a quand même privé de sortie pendant 2 ans. T'sais. Fait que j'étais pas plus avancé. Sinon, qu'est-ce que je vous avais noté d'autre dans mes nouvelles? Les nouvelles de la semaine avec ton bon ami Laurent. Eddie Hearn avait l'air bien content. Je dirais, j'ai oublié d'en parler. Tyson Fury puis Alexander Usyk. Après la nouvelle la semaine, ça fait 8 heures, je fais un podcast, j'en ai pas encore parlé. Ils ont réglé ça. Là. Tyson Fury va affronter Alexander Usyk le 28 décembre, 23 décembre prochain ou le 24 janvier. C'est pas clair. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est qu'enfin, on a le combat qu'on veut. Et que ça met un peu un bombe sur la boxe. On n'a jamais les combats qu'on veut. Puis là, ça fait du chiale. Puis là, le monde sont comme « On n'a jamais les combats qu'on veut. » C'est pour ça que moi, j'écoute le UFC. Mais là, on l'a eu, notre combat, finalement. Là. 23 décembre. Il faut juste pas que Fury se blesse contre Ngannou. Mais en même temps, Ngannou, c'est un gars d'MMA. Ça, c'est pas boxé. Il n'y a pas de danger. Germal Charlot va affronter José Benavidez le 25 novembre prochain. Ce serait le même soir que David Benavidez affronte Demetrius Boubou Andrade. On attend les nouvelles officielles de mon côté. Et il y a des rumeurs de Terence Crawford contre Jaron Boutenis vu que ça gosse avec Errol Spence. Et voilà, c'était tes nouvelles de la semaine. C'était ton podcast préféré. Il y a tellement d'informations que tu peux aller dans ton souper de famille puis tout déballer ça pour avoir l'air d'un grand connaisseur. Tu es prêt pour la prochaine semaine. Je vous aime tous. Martine, Vallière, Bisson, je te fais le plus long des câlins. Le Québec et le podcast est derrière toi et t'envoie des ondes positives. Ce n'est pas de tout repos. Tes traitements, des fois, t'es pas toujours en grande forme après, mais on t'aime tous. Il n'y a pas grand Québécois qui peut se vanter d'avoir 52 000 personnes qui est derrière ça. C'est les codes d'écoute de ton podcast préféré. À la prochaine.